toutes, chers auditeurs, chères auditrices, ici Sophie Emeriot et je suis ravie de vous retrouver sur CFM Cordes dans l'émission « Comment ça va bien aujourd'hui ?» Donc l'émission dédiée au bien-être, aux thérapies diverses et variées et sans compter dans la joie et la bonne humeur. Alors Jack, comment ça va bien aujourd'hui?
Eh bien moi ça va très bien aujourd'hui, bonjour Sophie, bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde. Alors nous sommes aujourd'hui le 3 mars 2022. Et l'émission sera diffusée donc ce samedi 5 mars à 17h sur CFM Cordes. Nous fêtons les Guénolés. Alors les Guénolés, c'est un prénom breton qui signifie pur et valeureux. Rien que ça, dis donc. De plus, Saint Guénolé se voyait attribué par la dévotion populaire des vertus de thaumaturge. Rien que ça, s'il vous plaît. Il donnait de la force aux enfants et les aidait à marcher. Il guérissait les verrues, les maux de tête et les névralgies. Alors dans cette dynamique de faire des miracles aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler. Alors l'émission va se passer en deux parties. La première partie, je vais démystifier l'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose? Quelles sont les différentes formes d'hypnose? Et dans la deuxième partie, je vous parlerai un peu plus en détail de ma spécificité. Voilà, puisque l'hypnose reste un de mes outils thérapeutiques. Très très bien, alors voilà, soyez à l'écoute chers auditeurs et auditrices parce que là attention c'est du condensé, hein, je vais faire en sorte de ne pas vous perdre en route. Très bien, alors voilà, pour vous expliquer au niveau de l'hypnose humaniste, puisqu'à la base je suis hypnothérapeute. Alors souvent j'entends, oui mais l'hypnothérapeute humaniste à la base elle est humaine. Alors ben non, en fait ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'hypnose humaniste, c'est une forme d'hypnose différente qui fonctionne à l'inverse des autres hypnoses, comme l'hypnose ericksonienne, l'hypnose classique, la nouvelle hypnose. L'hypnose humaniste permet d'accéder à des ressources personnelles en état d'ouverture, c'est-à-dire en état de conscience augmentée. Elle permet à la personne d'être complètement associée à elle-même, c'est-à-dire dans un état unifié, donc davantage de conscience d'elle-même et du monde autour d'elle. Voilà, cela lui permet d'agir en autonomie sur ses blessures émotionnelles, donc bien sûr guidée par l'hypnothérapeute qui a un rôle d'aide et de pédagogue. Voilà en sorte ce que c'est que l'hypnose humaniste. La personne est détendue, elle est relaxée, comme dans les autres formes d'hypnose. Elle permet de travailler en psychothérapie, c'est-à-dire on va travailler sur le mal-être, la forme de dépression, les blessures d'enfance, etc. Mais aussi avec l'hypnose humaniste, on va travailler comme les autres hypnoses en thérapie brève, c'est-à-dire gestion du stress, de l'anxiété, le sommeil, les addictions, etc. etc. Alors, l'hypnose humaniste se rapproche du travail de Carl Jung, c'est-à-dire pour la partie, ce qu'on appelle la thérapie symbolique avancée. Elle apporte en fait des outils qui permettent une communication en conscience et fait le lien entre comprendre et agir. L'hypnose humaniste, elle a été créée par Olivier Lockert, dont j'ai été justement formée, avec qui j'ai été formée, pardon, dans les années 2000, et Patricia D'Angeli Lockert, donc son épouse, elle a plus traité la partie psychothérapie avec la thérapie symbolique avancée. Voilà, j'espère que j'étais à peu près claire. Alors, nous allons continuer dans ce sens-là. L'hypnose thérapeutique, donc, c'est une autre forme d'hypnose. La personne accède, donc elle n'est plus en état unifié, elle n'est plus associée à elle-même, elle est complètement dissociée. C'est-à-dire que, alors ça ne veut pas dire qu'elle est coupée en deux, c'est juste qu'elle est scindée entre son conscient et son inconscient. La personne donc accède à son inconscient dans un état ce qu'on appelle modifié de conscience. Soit dans une transe légère, transe moyenne, profonde, mais pas trop, parce que sinon, après, la personne, elle s'endort. Voilà. Et la nouvelle hypnose utilise justement des inductions hypnotiques, dites en dissocié, c'est-à-dire qu'elles accentuent la scission naturelle entre le conscient et l'inconscient. Voilà, je répète plusieurs fois, mais c'est parfois nécessaire parce qu'on comprend pas toujours la première fois. Donc, si je répète 2-3 fois, c'est normal, en sachant qu'en hypnose aussi, c'est ce qu'on appelle le pattern, c'est-à-dire que le subconscient enregistre au bout de la 3e fois. Voilà, donc je le fais exprès. Le conscient de la personne est mis à l'écart. Et ainsi, c'est l'hypnothérapeute qui va parler directement à l'inconscient de la personne. Voilà. Ce que je peux vous dire. L'hypnose est un état modifié de conscience parfaitement naturel. Je m'explique. Sans le savoir, vous l'expérimentez et vous le vivez chaque jour de votre vie. Non, c'est pas vrai, mais comment ça se fait? Eh ben ouais, justement, je vais vous donner des exemples concrets. C'est que parfois, on l'ignore d'ailleurs. Imaginez, vous lisez un livre passionnant. Voilà, vous êtes comme, ça vous arrive parfois de vous sentir absorbé par l'histoire. Eh ben voilà, vous plongez totalement dans l'expérience, dans l'histoire, dans le livre. Et du coup, ben, vous ne percevez plus ce qui se passe autour de vous avec la même acuité. On peut même vous parler, vous entendez, mais vous n'écoutez plus. Vous êtes complètement absorbé par le livre. Ben, c'est ça, c'est une forme d'hypnose. Par exemple, un autre exemple, si vous regardez un film. Bon, je vais éviter de dire quand vous regardez la télévision. Mais quand vous regardez un film, par exemple, ben, c'est la même chose. Vous vous sentez complètement absorbé par l'histoire du film. Un autre exemple, tiens, vous conduisez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de conduire sans forcément conduire? Vous savez, cette sensation qui dit « Ah oui, déjà, je suis déjà arrivée, je suis partie de Cordes et je suis déjà sur Albi. » Eh bien, c'est ça, en fait. C'est une forme d'hypnose. Voir, alors des fois, ça me fait rire parce que, alors je sais pas toi, Jack, mais moi, ça m'est déjà arrivé de prendre l'autoroute et de louper la sortie, par exemple. Voilà. Bon, ben ça aussi, c'est une forme d'hypnose. Voilà, on est dans une forme d'automatisme, en fait. Voilà. Alors ensuite, pour vous donner d'autres exemples, et justement par rapport à certaines personnes qui se posent des questions, j'ai déjà entendu dire « Ouais, mais moi, je suis pas hypnotisable. » Bon, alors déjà, le pas être hypnotisable, ça n'existe pas. Puisqu'en fait, l'hypnose, c'est un état intermédiaire qui se situe juste entre l'état de veille et le sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous couchez le soir et que peut-être que vous regardez un film, peu importe, vous lisez un livre, vous écoutez de la musique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au bout d'un moment, vos ondes du cerveau commencent à se modifier. C'est-à-dire que les ondes du cerveau, sur le plan mental, on est dans les ondes bêta. Puis au bout d'un moment, quand on regarde un film, quand on écoute de la musique ou quand on lit, eh bien, les ondes passent de bêta à alpha. Eh bien, l'état alpha, c'est ce qu'on vit quand on vit une séance d'hypnose. Voilà. Donc, tout le monde est hypnotisable. Même quand vous allez en grande surface et que vous écoutez de la musique, et quand vous écoutez une publicité, c'est aussi une forme d'hypnose. Donc, tout le monde est hypnotisable. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Au niveau de l'hypnose, la thérapie par hypnose, elle existe et se pratique depuis la haute antiquité. C'est-à-dire que son efficacité est aujourd'hui reconnue par la science et elle est utilisée quotidiennement en médecine, notamment pour les anesthésies par hypnose. En fait, il s'agit d'administrer un produit anesthésiant localement, mais l'anesthésie générale n'est due qu'à l'hypnose, avec tous les avantages que cela présente. La réalité de l'état d'hypnose a été démontrée scientifiquement par la tomographie par émission de position, et ce, dès 1998. L'hypnose permet d'activer les ressources de votre inconscient. Le but, pour vous aider à aller mieux, de mieux en mieux, au quotidien. Et elle est donc une piste de solution à toutes sortes de problèmes d'origine psychosomatique. Alors bien sûr, je tiens à préciser aussi, elle ne se substitue jamais à la médecine. L'hypnose ne se préoccupe pas du conscient, elle n'agit qu'au niveau de l'inconscient. Ensuite, l'hypnose n'est donc ni un don, je suis désolée, mais là, faut être réaliste. Ni un pouvoir magique. Elle résulte d'un ensemble de techniques de communication de précision qui font l'objet d'un enseignement sérieux et rigoureux et d'examen de certification à la pratique. Alors, juste avant de faire la petite pause musicale, vérité et idées reçues concernant l'hypnose. Alors, les questions que j'ai pu lire. Est-ce qu'on... Avec l'hypnose, je me suis endormie. Eh bien, c'est faux. On ne peut pas s'endormir avec l'hypnose. Parce que si vous dormez, il n'est plus possible de contacter votre inconscient. Tout simplement parce que vous dormez. Voilà. Et vous êtes en onde θ, voire delta. L'hypnose, est-ce que c'est dangereux? J'ai envie de vous dire, c'est faux. L'hypnose, étant un état naturel dans lequel vous êtes chaque jour de votre vie, elle ne présente aucun danger. On est bien d'accord. Alors par contre, il y a quand même des contre-indications par rapport à l'hypnose, c'est-à-dire que cela concerne les personnes diagnostiquées comme des personnes bipolaires ou bien entendu schizophrènes. Voilà, c'est les seules contre-indications. Est-ce que sous hypnose, je peux perdre connaissance? Eh bien, c'est faux. Selon le type d'hypnose qui sera utilisé pendant la séance, une partie en fait de votre esprit conscient sera ou non mise de côté, afin de permettre l'accès à votre inconscient. Et votre conscience restera toujours présente, et ce pendant toute la séance. Et vous pourrez donc à tout moment interrompre par le seul effet de votre volonté. Autre question, est-ce que je peux refuser d'entrer en hypnose? Oui, tout à fait. Vous pouvez parfaitement refuser de pratiquer l'hypnose et tout bloquer pour empêcher l'entrée en transe. Mais moi je vais vous poser une question, c'est que quel est l'intérêt de faire ça? Parce que si vous allez voir un hypnothérapeute, c'est dans votre intérêt d'aller de mieux en mieux, de vous alléger, de vous libérer, de retrouver une certaine liberté si c'est une addiction, ou un mieux-être si c'est une souffrance. Donc, quel est l'intérêt de refuser de rentrer en hypnose? Alors, autre question aussi qui a été posée, oui, mais je ne me souviendrai plus de rien après la séance. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est à la fois vrai, c'est à la fois faux. C'est-à-dire que vous entendrez tout et comprendrez tout ce qui sera dit donc par votre hypnothérapeute pendant la séance. En hypnose, le but, c'est quand même de planter, si je puis donner une métaphore, une image, une bonne graine et de la laisser pousser pour votre santé et votre bien-être. Alors, si vous essayez de vous souvenir de toute la séance, vous le pourrez... Toujours, bien sûr, mais le but, c'est de ne pas vous laisser et de ne pas laisser déterrer la bonne graine qui a été plantée. Bah, sinon, bah, vous détruisez le travail que vous venez de faire, ça serait fortement dommage. Ensuite, les autres questions qui ont été posées, est-ce qu'on peut vraiment me faire faire, ah oui, ou dire n'importe quoi sous hypnose? Alors, est-ce que je vais perdre totalement le contrôle? Ben, c'est entièrement faux. Heureusement, vous ne ferez ou ne direz sous hypnose. Il est impossible d'aller contre votre volonté et vos valeurs. Et je tiens à préciser quelque chose aussi. C'est que ne confondez pas avec ce que vous voyez dans les émissions. Vous voyez, la télévision, là, vous savez, les spectacles, Mesmer et tout et quanti. Ne confondez pas ces émissions, parce que ce ne sont que des spectacles d'hypnose. Ça n'a rien à voir. Ce sont ces hypnotiseurs sont en fait des hommes de scène. Ce n'est que du trucage et du spectacle. Ce ne sont pas des hypnothérapeutes, en aucun cas. Et d'autre part, sachez une chose aussi, c'est que les sujets hypnotisés en spectacle, dans les coulisses, sont parfaitement d'accord et volontaires. Voilà, mais ça, bien sûr, ils vont pas le dire. Donc, voilà ce que je peux vous donner comme précision. Et ensuite, est-ce que l'hypnotiseur va entrer dans mon cerveau, lire dans mes pensées et tout savoir sur moi? Alors, ben non. Et heureusement. Et puis, voire même, c'est impossible. Là aussi, je veux revenir concernant les spectacles sur les fameux mentalistes, les hypnotiseurs de spectacles, par exemple, qui prétendent lire dans vos pensées. Soyez absolument certains que ce sont des magiciens. C'est ce qu'on appelle de l'illusionnisme de haut niveau, mais cela reste uniquement et strictement de la magie. Hein, il n'y a rien de paranormal et l'hypnose n'a rien à voir avec cette discipline. Voilà. Donc, j'espère vous avoir apporté quelques réponses par rapport à vos questions. Et sur ce, nous allons faire une petite pause musicale et je vous retrouve tout à l'heure.
Living.
Yes. Pour ceux qui arrivent à l'instant, je rappelle que vous écoutez l'émission « Comment ça va bien aujourd'hui ?», l'émission qui parle de sujets sur le développement personnel de thérapies diverses et variées. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui arrivent, j'étais en train d'expliquer ce qu'était que l'hypnose, démystifier l'hypnose, quelles sont les différentes formes d'hypnose. Alors, c'est vrai que, bon, une émission d'une heure, ça va vite. Alors, j'essaie d'être... J'essaie d'être concise et claire et ne pas dépasser le temps. Voilà, voilà. Alors, yes. Donc, au niveau de l'hypnose, donc l'hypnose humaniste, la nouvelle hypnose, il faut savoir aussi que l'inconscient, voilà, je veux revenir juste à ça. Il faut savoir que la personne va de son état ordinaire de conscience qui représente à peu près 5% de l'esprit global vers ce qu'on appelle l'expansion de la conscience. Elle va recevoir des perceptions simultanées et ces dernières vont lui permettre de communiquer avec son inconscient par l'intermédiaire de symboles. Donc ça, c'est ce que vit la personne quand elle est en science d'hypnose humaniste, puisqu'on travaille beaucoup avec les symboles. Ces symboles que l'on peut voir aussi dans les rêves. Le symbole, c'est quoi? En fait, il représente une forme qui contient toute l'information. C'est-à-dire que la personne, pendant la séance, elle peut modifier son symbole, dont l'information, soit en le transformant, le modifiant, lui changer de taille, de couleur, peu importe. À partir du moment, cela lui convient. Et c'est la personne, voilà, qui choisit de savoir ce qui est bon pour elle avec ses perceptions et son intuition. Le symbole peut être quoi? Bah, il peut être une forme, un personnage, un archétype, un objet, mais la personne ne revit pas la souffrance, elle ne revit pas l'émotion, le souvenir désagréable, puisque nous sommes dans la symbolique. L'inconscient représente 95% de l'esprit. C'est une grande banque de données, d'informations, et il est bienveillant, et avec lui, la personne peut changer les choses. Pendant la séance d'hypnose humaniste, elle est consciente car elle peut bouger, elle peut être assise ou debout parce qu'on peut effectivement faire des séances debout. Tout dépend de ce dont la personne elle a besoin pendant la séance. Je lui pose les questions nécessaires tout au long de la séance et la personne me répond. Je la guide et je l'aide à transformer l'information qui lui déplaisait au départ. Voilà si je peux résumer ce que c'est que l'hypnose humaniste. Yes. Alors, ensuite, je vais vous parler un peu plus de ma spécificité. Qu'est-ce que c'est que la spécificité? Ben, la spécificité, c'est-à-dire que quel genre, on va dire, de personnes, de patients viennent me voir. Ils viennent me voir pour deux raisons. Soit pour le côté thérapie brève, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être pour une histoire de gérer le stress, l'anxiété, troubles du sommeil ou les addictions, par exemple. Donc, ça veut dire que c'est une thérapie brève, ça comporte très peu de séances. Ça peut être en deux séances, ça peut être en trois, grand maximum, j'ai envie de dire. Des fois, une, c'est réglé. Et puis, elles peuvent venir aussi pour le côté psychothérapie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour le côté où on va creuser un peu plus, si je puis dire, à l'intérieur d'elle, dans sa psyché. Notamment quand il y a des dépressions, des mal-êtres, les blessures de l'enfance, etc. Et là, ma spécificité, elle va être quoi? Eh bien, elle va être au niveau des addictions. Et je vais vous expliquer ce que c'est qu'une addiction, comment ça fonctionne au niveau du cerveau, comment fonctionne la dépendance, puisqu'il y a une différence, et comment fonctionne aussi une compulsion, puisque là aussi, il y a encore une différence. Et je vais vous parler aussi des troubles de l'attachement. Voilà, voilà, voilà. Alors, bien, est-ce que vous êtes prêts? Parce que je relève les copies à la fin, hein, d'accord? Alors, l'addiction, c'est l'impossibilité à éviter de stopper un comportement qui sert soit à produire du plaisir, puisqu'à la base, il y a le plaisir, soit à enlever une sensation de mal-être interne. Tout ceci se situe dans notre cerveau parce que la base de tout, c'est le circuit de la récompense. Ce circuit de la récompense fonctionne avec la fameuse hormone qui s'appelle la Dopamine. Alors, ce circuit de la récompense existe de manière naturelle, donc dans le cerveau. Et toutes les drogues et les comportements addictifs vont agir en augmentant la libération de la dopamine. Ce système de récompense est indispensable à l'espèce humaine pour permettre de faire des actions et des comportements pour préserver l'individu et son espèce, mais aussi le circuit. La récompense peut être détournée pour s'activer quand on fait une activité qui nous plaît. Ça peut être du sport, une sieste, de la musique, et le cerveau va libérer de la dopamine. Et la personne va se sentir très bien aussi. Mais, et alors, l'addiction ? L'addiction se définit donc par cette incapacité pour l'individu de s'empêcher de consommer la substance, donc s'empêcher de produire le comportement tout en ayant connaissance des conséquences négatives qui s'en suivent. C'est-à-dire que la personne ne peut pas s'en empêcher. C'est comme si une partie d'elle-même lui obligeait. Une partie d'elle qui l'oblige à agir de cette manière. Et cette addiction va créer, et là, va créer une dépendance. Et on parle de dépendance lorsqu'on souffre du syndrome de sevrage à l'arrêt brusque de la consommation d'un produit ou d'une substance. Je répète, on parle de dépendance lorsque l'on souffre du syndrome de sevrage à l'arrêt brusque de la consommation d'un produit ou d'une substance. La dépendance n'est pas forcément la même chose qu'une addiction. Pourquoi ? Parce que ce sont deux phénomènes différents qui n'affectent pas le cerveau de la même manière. On parle de dépendance lorsqu'on souffre du syndrome de sevrage à l'arrêt brusque de la consommation, alors que l'addiction est la consommation excessive d'une substance en dépit des conséquences néfastes. Par exemple, si vous prenez de l'opium, cela entraîne à la fois dépendance et addiction, alors que la cocaïne ne provoque que de l'addiction. La dépendance donc touche tout le monde. Par exemple, des personnes âgées qui, justement, prenaient de la suite à même une opération, allez, on va dire ça, suite à une opération, le médecin prescrivait, ce qui est normal, de la morphine comme traitement antidouleur. Sauf qu'au bout d'une semaine, certaines personnes se retrouvaient dépendantes. Et il faut savoir que sur les consommateurs de drogue aussi, seuls 20% deviennent accros. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir une consommation récréative pendant des années sans perdre le contrôle. Alors, si effectivement l'alcool et le tabac agissent sur la modification donc de substances chimiques comme la dopamine, eh bien les comportements aussi agissent sur le centre de la récompense. Et c'est là qu'il y a un double effet pervers, en fait, dans ces addictions. C'est-à-dire que vous êtes dans une consommation excessive, donc vous allez devenir dépendant à cause de la dopamine. Et vous allez premièrement consommer pour avoir de la dopamine, parce que la dopamine, c'est un dopant. Et c'est ce qui nous motive, c'est ce qui motive la personne. À travers donc, les actions, les comportements, donc la personne cherche la dose de dopamine. Voilà, et vous rentrez ensuite, malheureusement, dans une deuxième étape qui est une consommation excessive. Parce que le problème de la dopamine, c'est qu'il faut que la dose soit plus forte à chaque fois. Sinon, vous n'avez plus l'effet recherché. Et vous avez un effet, on va dire, sur le moment, waouh, super, c'est génial. Ça, c'est la première fois. Mais sauf qu'au fur et à mesure que vous renouvelez, eh bien, vous augmentez la répétition, la fréquence, ou vous augmentez, en fait, et vous augmentez, pardon, de plus en plus les doses à chaque fois. Et ça peut être pareil pour ceux qui font du sport, ça peut être pour le travail, ça peut être pour plein de choses, pour des tas d'activités. Voilà, voilà. Donc, premièrement, vous allez chercher dans un comportement de la dopamine. Deuxièmement, eh bien, le fait d'aller chercher la dopamine fait qu'à un moment donné, l'effet s'estompe et vous êtes obligé d'augmenter l'intensité, la durée, la dose et donc vous tombez addict à la dopamine. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, à chaque fois que vous allez chercher un peu plus loin, un peu plus fort, consommer un peu plus, dépenser un peu plus, vous augmentez votre dopamine. Donc vous avez la dopamine qui vous motive avant parce que c'est ce qui vous fait passer à l'acte. Et quand vous faites la chose ou que vous achetez quelque chose, eh bien vous avez cette libération de dopamine qui vous récompense. Et donc, comme elle vous récompense, parce que c'est le double effet qui se coule, ben voilà, ça vous donne envie d'aller en chercher encore plus. Eh oui. Donc, Bah, en fait, vous êtes malheureusement bloqué dans un processus addictif et la dépendance, bah, ça va être effectivement le fait de plus être que dans la consommation addictive, mais de ne plus pouvoir vous en séparer. Voilà, voilà, voilà. Mais qu'est-ce qui fait le passage de l'addiction, c'est-à-dire de quelque chose d'excessif, à l'étape de la dépendance ? Alors, ce sont des mécanismes d'adaptation qui sont soit la recherche d'un plaisir, ça vous l'avez bien compris, et ça c'est l'addiction, soit la recherche de la satisfaction d'un besoin, et ça vous l'avez compris, c'est la dépendance. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'effectivement, une consommation qui nous amène à une addiction, mais on peut s'arrêter à tout moment, on va juste donc chercher ce plaisir, on n'est pas dépendant de ce plaisir, et on peut à tout moment arrêter, et à ce moment où on bascule dans la dépendance, qui fait qu'on est asservi à cette contrainte par corps, qui fait qu'on ne peut plus s'en sortir. Eh bien, il y a deux choses qui font basculer vers cette dépendance à partir d'une addiction. Soit c'est un trouble de l'attachement, soit effectivement c'est un syndrome post-traumatique. Et nous allons voir justement comment arrive ce syndrome post-traumatique et comment il se traduit par une dépendance dans la vie des gens. Et sur ce, nous allons faire, bien sûr, évidemment, vous allez souffler un petit peu, et moi aussi, et nous allons faire une pause musicale. Merci.
Yeah.
Et oui, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes toujours à l'émission « Comment ça va bien aujourd'hui ?» où je parle de choses intéressantes, enfin j'espère en tout cas, mais aussi pour vous expliquer comment ça fonctionne. Hein, comment ça fonctionne les addictions, comment ça fonctionne justement la dépendance, comment ça fonctionne les compulsions. C'est ce qui m'a amené vers cette spécificité entre parenthèses justement. C'est vrai qu'avec l'histoire du Covid, donc il y a 2 ans maintenant, où en fait beaucoup de personnes se sont tournées vers plus de substances, plus de tabac, plus d'alcool, plus de drogue, plus de parce que justement dans ce contexte où tout le monde était enfermé et d'ailleurs ça a été assez violent pour beaucoup de personnes, bah disons que vu que ça a réveillé effectivement émotionnellement, ça a été très compliqué, ça a réveillé des peurs, des colères, des frustrations, etc. Donc qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi et notamment au niveau de sa psyché? Eh bien beaucoup de personnes se sont tournées justement vers des substances et autres parce que il n'y a pas que le tabac, il n'y a pas que l'alcool, il y a aussi tout ce qui est sucre, il y a aussi les jeux vidéo, il y a aussi Internet, parce que grâce ou à cause le Covid, beaucoup se sont tournés vers la vidéo et c'était très bien, ça a été aussi très créateur. Mais le problème, c'est, rappelez-vous, de l'addiction, c'est que quand il y a beaucoup de plaisirs qui se répètent chaque jour, c'est comme ça qu'on finit par basculer dans la dépendance. Et notamment pour les adolescents qui se sont tournés énormément vers leur portable aussi. Bien. Alors, donc j'étais en train de vous parler justement de les deux choses qui font basculer entre la dépendance à partir de l'addiction, l'attachement. Il y a ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Voilà, le syndrome post-traumatique, comment il se traduit en fait par une dépendance dans la vie des personnes. Un traumatisme se produit lorsqu'une personne, elle est victime, c'est-à-dire qu'elle subit. Voire témoin d'un événement qui menace sa vie ou qui peut entraîner des blessures physiques ou psychologiques graves. Le traumatisme va blesser le corps, mais aussi va blesser le psychisme, voire atteindre le mental de l'individu. Alors, je vais vous donner des exemples. Des réactions physiques sont possibles. Alors, ça peut se traduire par de l'insomnie, des tremblements, du stress, des problèmes gastro-intestinaux, maux de tête, troubles de la libido, des réactions également émotionnelles comme par exemple une terreur, une tristesse, un choc, une honte, une colère, mais également des réactions cognitives comme la difficulté à se concentrer, une certaine confusion, des cauchemars, des pensées intrusives, des moments d'absence et des pertes de conscience, des fois des phénomènes psychotiques comme des hallucinations, une perte du sens de la réalité, des difficultés à prendre des décisions et des troubles de la mémoire. Ceci peut avoir des conséquences, c'est-à-dire des conflits relationnels aussi. Un isolement, un comportement social, une méfiance par rapport aux autres, des difficultés professionnelles ou un comportement vraiment social. Ce traumatisme peut amener à une déconnexion de l'individu, à une dépersonnalisation, voire une dissociation, c'est-à-dire une sorte de self-défense psychique de l'être par rapport à l'adaptation qu'il doit faire sur ce traumatisme. Et ensuite, ce qui est important, c'est de comprendre la différence, donc maintenant, entre une addiction et une compulsion. Alors, l'addiction nous vient d'un terme juridique qui veut dire « contrainte par corps ». Alors, je vais vous prendre un exemple qui m'est venu au Moyen-Âge. Quand la personne ne pouvait pas payer ses dettes au seigneur, et donc la personne devenait l'esclave du seigneur. Donc la personne était contrainte de travailler pour le seigneur, pour payer donc ses dettes en fait. Donc c'est ça une addiction, c'est-à-dire la personne est obligée de faire un comportement à l'insu de son plein gré, pour pouvoir répondre à des choses qu'elle n'a pas réglées en elle. Et là se met en place quoi ? La compulsion. C'est-à-dire que si je fais un mauvais jeu de mots, c'est une pulsion qui est con. C'est-à-dire une mauvaise pulsion. Le Larousse médical nous indique que l'addiction est un processus donc de dépendance plus ou moins aliénante à des produits toxiques ou à des comportements, et que c'est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Il s'accompagne d'une impossibilité à contrôler le comportement addictif, en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. La compulsion est un trouble du comportement caractérisé par une envie irrésistible d'accomplir certains actes à laquelle le sujet ne peut résister sans angoisse. Donc, ça veut dire quoi? Les actes compulsifs, s'ils sont effectués de manière répétitive, peuvent entraîner un dérèglement très grave, voire une destruction de la vie sociale, relationnelle, familiale ou amicale. Et la compulsion, c'est le stade ultime, c'est-à-dire que vous faites des choses sans aller chercher du plaisir. Dans la compulsion, il n'y a pas de plaisir. Voilà. Et ça peut devenir plutôt un trouble obsessionnel compulsif, c'est-à-dire que c'est plus fort que vous. C'est-à-dire que contrairement à l'addiction, vous allez chercher du plaisir, la compulsion, il n'y en a pas. Je le répète, c'est vrai, mais c'est important. Et vous êtes pris dans un mécanisme qui vous habite et qui vous fait vous détruire petit à petit, peu à peu, sans aucun plaisir. Et donc là, il est important d'aller voir, d'aller consulter effectivement, d'aller voir un psychologue, un thérapeute pour justement régler le trouble obsessionnel compulsif. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue par rapport à ça. J'ai essayé d'être assez brève, concise et claire. Je vais justement maintenant parler, puisque je vous ai parlé tout à l'heure, des troubles de l'attachement. Alors, les troubles de l'attachement, il y a deux causes essentielles qu'on s'attache effectivement, soit dépendant d'une addiction qui devient vraiment une compulsion dont on est dépendant, ce sont les stress post-traumatiques qu'on vient de voir, et la deuxième raison, c'est le trouble de l'attachement. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il est nécessaire d'aller voir, je le répète, un psychologue, un thérapeute. Le docteur Boris Cyrulnik, qui est un médecin, neuropsychiatre et psychanalyste, a expliqué par rapport aux situations neuro-émotionnelles pour les personnes qui ont du mal à rester en couple. Bon, alors là, je vais vous parler des troubles de l'attachement des adultes, mais forcément, en parlant des adultes, la base, c'est aussi les troubles de l'attachement de l'enfance, bien évidemment. Bon, donc, il existe en fait des, si je puis dire ça comme ça, des, comment je pourrais dire ça, des catégories en fait. C'est-à-dire, si je reprends par rapport à l'histoire du couple, et comme l'explique si bien le docteur Boris Cyrulnik, alors représente à peu près 45% de la population, donc vous avez deux grosses catégories, c'est-à-dire que vous avez les gens qui sont donc des évitants, donc ça veut dire qu'ils évitent la relation et qui sont dans une fuite. De ce style d'attachement découlent donc deux sous-types. Je m'explique. L'évitant distant, il a développé une théorie sur lui-même selon laquelle il n'a pas besoin des autres, ce qui lui permet de justifier son comportement distant. Ensuite, nous avons l'anxieux, l'angoissé, l'anxieux évitant. C'est-à-dire qu'il a conscience d'avoir très envie d'intimité relationnelle, mais il est terrifié lorsqu'une telle situation se présente. Ensuite, je pourrais vous parler plus longuement, mais alors là, je sens que je vais vraiment vous perdre. D'ailleurs, Jack, ça y est, je crois que je l'ai perdu. Alors, ensuite, bon, voilà, il existe plusieurs catégories au niveau des troubles de l'attachement chez les adultes. Donc, les anxieux, donc les angoissés, les évitants, les borderline, ce qu'on appelle les chaotiques, etc., etc. Mais je vais quand même vous parler des troubles de l'attachement chez l'enfant parce que c'est la base, en fait. Eh oui. Qu'est-ce qui provoque... Alors, comment je pourrais vous expliquer ça? Tout en étant un peu concise. Alors, la première blessure de l'enfant, c'est ce qu'on appelle la blessure narcissique. C'est-à-dire que la blessure narcissique tire son origine de Narcisse, un personnage de la mythologie grecque qui, à force de regarder son reflet dans un lac, a fini par tomber dedans et il est mort noyé. Et il était en fait amoureux de lui-même. Bon, ça, c'est ce qui est écrit dans le dictionnaire. Mais la blessure narcissique, comment ça se traduit? Eh bien, c'est, donc, comme je vous l'ai dit, la première blessure que le bébé commence à vivre depuis la séparation avec sa mère. Puisque, bon, la première personne qu'il connaît, en principe, c'est sa maman. Donc, c'est-à-dire la séparation depuis sa naissance. Donc, cette blessure va ensuite engendrer d'autres blessures. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, maltraitance et non-reconnaissance. Si cela vous intéresse, vous pouvez lire les livres de Lise Bourbeau, justement, qui a écrit « Les cinq blessures de l'âme ». Les cinq blessures et le corps, enfin voilà, elle a écrit énormément de livres, elle est canadienne. Et moi, je me suis intéressée plus à la blessure narcissique. En fait, la blessure narcissique, c'est la peur de mourir par manque d'attention, par manque d'acte, par manque de considération, d'affection de la mère, de la maman, et absence aussi physique ou psychique de la mère. C'est ça, la blessure narcissique. Et c'est la première blessure, je le répète, c'est la première blessure que l'on vit à la naissance, puisque de toute manière, quand on est, eh ben, on vit déjà la séparation avec la maman. Voilà, nous allons faire une troisième pause musicale et je vous retrouve tout à l'heure. Cette pause musicale, rock and roll. Alors nous allons revenir et nous allons terminer justement sur la blessure narcissique. Alors je vous disais en fait dernièrement que la blessure narcissique pour l'enfant, en fait, il est dépendant de la mère biologiquement. Et donc pour lui, il est vital pour lui de recevoir de l'attention et de l'affection pour son propre développement. S'il ne le reçoit pas, cela va créer effectivement des angoisses, voire même un côté mortifère en lui. Alors, mais quels sont les besoins du bébé? Ah ben cela passe par ses sens différents. Le goût, c'est-à-dire le lait maternel, le lait. L'ouïe, la voix de maman. Le toucher, les caresses de maman. L'odorat, l'odeur de maman. Et la vue, le regard de maman posé sur lui. Le regard de maman sur son bébé est la véritable connexion, c'est le lien d'amour. Nous trouvons en fait une compréhension de nos modes de fonctionnement adultes dans la théorie de l'attachement et les liens primaires qui lient en fait le bébé à sa maman. Toute recherche d'amour est une recherche de ce premier regard. Le besoin du lait se transforme en désir de la mère. En ce sens, l'amour est d'abord, avant de se développer et de se transformer, une attente, voire même une quête narcissique. La reconnaissance de l'autre est nécessaire à l'existence du sentiment amoureux. L'enfant, à son tour, se trouve dans un conditionnement, une loyauté vis-à-vis de ses parents, de sa maman, pour obtenir ce qu'il désire puisqu'il est rentré dans une négociation marchande. Je te donne ça, tu me donnes ça. Bon, ça, je mets une petite parenthèse. Mais il crée par voie de conséquence une identité adaptée pour échapper à une mort physique, biologique, certaine fictive. Elle est indispensable à sa survie. Et c'est ce qui se passe chez chaque personne. C'est ce qui se passe, c'est ce que l'on peut vivre. L'enfant s'identifie aussi à ce personnage et se désidentifie à son soi profond. Le petit moi a comme rôle d'avoir cette peur profonde de mourir. Alors je répète ce que je viens de vous dire. L'enfant s'identifie à ce personnage et se désidentifie à son soi profond. Ça veut dire quoi se désidentifier ? Ça veut dire qu'il se sépare d'une partie de lui-même. Et c'est ce que l'on vit au fur et à mesure en grandissant. C'est comme ça que l'on se retrouve aussi complètement dissocié en étant adulte, en n'étant pas soi-même, en créant des personnages aussi, en créant des rôles. Voilà. Par voie de conséquence, l'enfant en grandissant mettra en place des stratégies égotiques pour attirer toute l'attention nécessaire sur lui et fera en sorte d'avoir de toute l'attention sur l'autre. Ceci va créer de la dépendance affective. Puis, en continuant de grandir, eh bien, vous l'aurez compris, l'adolescent, avec ses croyances, vivra l'injustice comme une véritable blessure, ce qui sera douloureux pour lui et de même pour les autres blessures. Je le répète, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison, la non-reconnaissance et la maltraitance. Aimer, c'est chercher consciemment ce qui nous a manqué et retrouver le plus souvent inconsciemment ce que nous avons déjà connu. L'amour est un choix délibéré. Deux personnes ne s'aiment vraiment que lorsqu'elles sont capables de vivre l'une sans l'autre, mais choisissent de vivre ensemble. Oui, en mon sens, c'est ça l'amour, le véritable. Alors, on ne vit pas dans le monde des bisounours, non. Mais, c'est un amour qui n'est pas aliénant. L'amour, à mon sens, ne se vit pas dans la dépendance affective. Mais ceci s'explique. C'est pour ça que je vous explique ce que c'est que la blessure narcissique. Bien, alors je vais accélérer un petit peu. C'est pour ça que... Ouais, ça marche. Oui, je me dépêche. À l'adolescence, alors que les sentiments du tout petit sont enfouis dans l'inconscient, c'est ce même chemin, désir, plaisir, manque qui survient, mais sur un autre registre, cette fois sur le sentimental et la sexualité. Et nous allons refaire ce chemin, mais cette fois nous serons deux merveilleuse découverte du plaisir et du chagrin d'amour. Voilà, donc on avance, et on arrive dans les quatre types d'attachement donc chez l'enfant, et on le retrouve forcément chez les adultes. L'attachement sécurisant, l'attachement évitant, l'attachement ambivalent, l'attachement confus. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et on retrouve donc ces quatre comportements dans les liens amoureux de l'adulte. Voilà où ces profils types de l'attachement permettent d'envisager toutes les combinaisons de couple possibles. Chaque partenaire arrive avec son propre mode de gestion du manque et cherche à imprimer au couple le rythme fusion-séparation qui lui convient le mieux selon son degré de sécurité interne et intérieure. Comment fait-on pour guérir la blessure narcissique ? Alors, déjà, il est important de prendre conscience de sa blessure. Parce que si on ne prend pas conscience de sa blessure, on est victime. Ça veut dire qu'on subit. On subit sa vie, on subit ses blessures. Et donc, ça veut dire qu'on la rejoue. Si on la refoule, ça veut dire qu'on est complètement dans le déni de soi. Et puis, donc, comme on est dans le déni, on a toujours raison. Par contre, si on sublime sa blessure, ça veut dire qu'en fait, on peut modifier certaines choses en la sublimant. La sublimant, ça veut dire, ben oui, je prends conscience, mais du coup, je peux modifier certaines choses. Ça veut dire que je peux aussi, je peux la transformer quelque part. Ça veut dire que, par exemple, on peut choisir de se pardonner. Se pardonner, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire, je me pardonne de m'être fait du mal, d'avoir cru que l'autre ne m'aimait pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on reste dans la blessure narcissique ? Ça veut dire qu'on avait un idéal d'amour vis-à-vis de notre maman, de notre papa. Et le but, c'est de sortir de cet idéal. Parce que l'idéal n'existe pas. La perfection n'existe pas. Puisque papa et maman, notamment pour la blessure narcissique, elle a fait aussi comme elle a pu. Voilà comment on fait pour sortir de la blessure narcissique. Et aussi, pour sortir de cette blessure, enfin, pour terminer, c'est ben, je m'engage à recevoir cet amour de moi-même et seulement de moi-même. Et on peut aussi se dire, et chers auditeurs, chères auditrices, je vous quitterai avec ce mantra que vous pourrez, si vous le désirez, de l'expérimenter. Je ne vous demande pas de me croire, mais expérimentez par vous-même. C'est-à-dire de vous dire au moins 3 fois, n'oubliez pas, hypnose, pattern, 3 fois. Je m'aime, je m'approuve, je me préfère et je me félicite. Je m'aime, je m'approuve, je me préfère et je me félicite. Je m'aime, je m'approuve, je me préfère et je me félicite. Voilà. Chers auditeurs, chères auditrices, je rends l'antenne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent fin de semaine, un excellent week-end. Je ne sais même plus quel jour on est tellement que j'ai perdu la notion du temps. Moi aussi, je me suis dissociée. Et je vous dis à très vite, au mois prochain où je recevrai Ryan Gori qui nous parlera plus en détail de son accompagnement en hypnose spirituelle et philosophique. Prenez soin de vous, chers auditeurs, chères auditrices, et gardons l'humour plus que jamais et aimez-vous. Aimez-vous. Ciao, ciao. Salut, Jack.